Bonjour. François Hollande a reconnu ce matin les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Discours solennel dans la cour des Invalides. Le chef de l'État honore ainsi une promesse de campagne. Nous rejoindrons aux Invalides Aurélien Colli. Nous irons aussi à Guidel dans le Morbihan où François Bayrou réunit ses troupes ce dimanche. Les militants s'interrogent sur la stratégie du président du Modem qui soutient Alain Juppé à la primaire de la droite. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi pour tenter de stopper l'escalade de la violence en Syrie à Alep. La représentante du Haut Comité des négociations, Basma Khodmani, ne se fait pas trop d'illusions sur cette rencontre, nous l'entendrons. Enfin, nous appellerons Mathieu de Taillac à Madrid. Deux élections régionales ce dimanche en Espagne, en Galice et au Pays Basque. Nous verrons en quoi ces scrutins peuvent agir sur la paralysie politique du pays depuis 9 mois. Avant de développer ses titres, le grand rabbin de France, Joseph Citruc, est décédé ce dimanche à Paris à l'âge de 71 ans. L'entourage de son successeur, Haïm Korsia, vient de l'annoncer. Séfarade, né à Tunis, Joseph Citruc avait été le guide spirituel de la première communauté juive d'Europe de 1987 à 2008. François Hollande semble être en pré-campagne électorale, même s'il n'a toujours pas dit s'il serait candidat à la présidentielle. Il en donne les signes en multipliant les discours. Hier à Tours, où il a défendu le projet de démantèlement de la jungle de Calais, ville où il est attendu demain. Et ce matin, il vient de prononcer un discours solennel en hommage aux harkis, cérémonie officielle dans la cour des Invalides, en présence d'autres candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé ou encore Marine Le Pen. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Anne.
Vous êtes en direct dans la cour des Invalides où François Hollande vient donc de s'exprimer.
Oui, une cérémonie sobre, une trentaine de minutes qui a débuté avec la Marseillaise avant que François Hollande n'aille déposer dans un lourd silence une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative. Le président français a ensuite pris la parole, des mots choisis, pesés.
Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France.
François Hollande devient donc le premier président à reconnaître solennellement, l'abandon des harkis par la France. Et il est même allé plus loin puisqu'il a insisté aussi sur la nécessité de réconcilier toutes les mémoires de l'Algérie sans les opposer. Une explication en fait à sa décision de commémorer la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars dernier, lendemain des accords d'Évian de 62, alors que cette date correspond pour les harkis au début de l'enfer. On l'a senti en fait par sa présence, une première, par ce discours très fort. François Hollande a voulu apaiser et ne pas laisser, vous le disiez, le terrain à ses adversaires. Nicolas Sarkozy était là aussi, lui qui a promis justement hier de supprimer toute commémoration le 19 mars. Marine Le Pen également présente car de plus en plus de harkis se tournent aujourd'hui vers le Front National. Et même s'ils ne représentent que 500 000 Français, derrière eux il y a aussi les pieds noirs avec le même sentiment d'abandon de la France, mais eux sont 3 millions.
Merci Aurélien Colli, vous étiez en direct des Invalides avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Au centre, plus de 800 militants du Modem sont rassemblés à Guidel dans le Morbihan pour l'université de rentrée de leur parti. Dernière journée ce dimanche avec le discours de clôture de François Bayrou attendu à 14h. Le président du Modem soutient Alain Juppé dans la course à la présidentielle, mais il se présentera si Nicolas Sarkozy remporte la primaire de la droite. Alors que pensent les militants de cette stratégie? Estelle Schmitt leur a posé la question.
Un parti en retrait et une candidature sous condition, de quoi déboussoler les militants, mais pas Véronique, venue de Pau, ville dirigée par François Bayrou.
C'est une décision responsable, parce qu'il vaut peut-être mieux être plus fort allié à quelqu'un, plutôt que de partir seul. Ça me paraît être une très bonne stratégie.
Décision de raison qui n'empêche pas les pincements au cœur.
Naturellement, entre guillemets, notre champion est François Bayrou.
Thomas, militant parisien.
Après, on est d'abord dans l'intérêt du pays, on pense qu'aujourd'hui le meilleur candidat face à un vrai risque que de Marine Le Pen, c'est Alain Juppé aujourd'hui.
Thomas votera à la primaire de la droite et du centre. Émile, jeune militant girondin, lui ne s'est pas encore décidé car il ne comprend pas la décision de François Bayrou.
Ça peut avoir quelque chose de frustrant. Il fait une abnégation personnelle. Il a décidé de mettre son ego de côté. C'est son choix. Ça ne peut résumer en rien les choix des membres du Modem.
Émile espère toujours que François Bayrou sera candidat à la présidentielle. Cécile, qui vit en Haute-Savoie, fait un autre calcul.
Probablement le prochain président de la République sera choisi au moment des primaires. Personnellement, je n'ai aucune envie d'avoir un Sarkozy président de la République. Et donc je vais faire tout ce que je peux pour que ce ne soit pas ça qui se produise.
Et Cécile n'exclut pas d'aller voter également à la primaire de la gauche, comme de nombreux militants du Modem.
Un reportage d'Estelle Schmitt. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi à la demande de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Il s'agit d'enrayer l'escalade de la violence à Alep. Les forces du régime et leurs alliés ont intensifié leur offensive dans l'est de la ville tenue par les insurgés. Depuis vendredi, les bombardements sans répit ont fait plusieurs dizaines de morts. Violence sans précédent en Syrie et dans l'histoire, selon Basma Kodmani, la représentante du Haut Comité des négociations qui rassemble les principaux représentants de l'opposition et de la rébellion syrienne et pessimiste sur la réunion de l'ONU.
Les membres du Conseil de sécurité, à commencer par les États-Unis, se rendent impuissants eux-mêmes. Quel est le message que l'on envoie aux groupes qui ne demandent pas mieux que de poursuivre la guerre? Nous avons un régime qui ne veut en aucune façon le processus politique, on l'a compris. Nous avons une Russie qui vient de nous dire que tout ce qui se passe sur le plan diplomatique est une espèce de couverture pour qu'elle poursuive un plan militaire qu'elle met en œuvre de façon très méthodique. Et nous avons de l'autre côté Daesh, bien sûr, et Al-Nusra et des groupes radicaux qui sont ravis de voir qu'ils vont pouvoir continuer à travailler comme ils l'entendent. Alors bonjour au terrorisme international, il n'y a plus qu'à attendre comment les forces de sécurité dans les différents pays vont pouvoir contenir la menace. On attend de voir si à un moment donné les autres pays de Conseil de sécurité vont se ressaisir.
Des propos recueillis par Claire Lenestour. En Jordanie, l'écrivain controversé Naed Attar a été assassiné ce dimanche devant un tribunal d'Amman. Il était jugé pour avoir publié une caricature considérée comme offensante à l'islam. Aux États-Unis, l'auteur présumé de la fusillade qui a fait 5 morts vendredi dans un centre commercial de l'État de Washington a été interpellé. Cet homme de 20 ans a été placé également en détention. Selon le responsable du FBI à Seattle, aucun élément ne permet de dire qu'il s'agit d'un acte terroriste. Et puis en Caroline du Nord, la police de Charlotte a publié les images vidéo de l'incident au cours duquel Keith Scott a été tué lors de son interpellation mardi. Images qui ne permettent pas de déterminer si cet homme noir était armé et surtout elles n'indiquent aucune menace directe vis-à-vis des forces de l'ordre. La justice doit maintenant décider quel type d'enquête doit être ouverte et si les policiers doivent être inculpés. En Espagne, les élections régionales de ce dimanche seront particulièrement scrutées. Les habitants de la Galice et du Pays Basque sont appelés aux urnes. Le pays est en proie, on le sait, à une profonde crise politique depuis 9 mois. Ce scrutin pourrait-il permettre de débloquer ou au moins de clarifier la situation, Mathieu de Taillac?
Alors, à première vue, le lien n'est pas évident. On a 2 scrutins régionaux avec leur dynamique locale, avec des partis même régionaux qui s'ajoutent aux 4 grands partis nationaux. Mais c'est vrai qu'à Madrid, on regarde de très près ce qui va se passer en Galice et au Pays Basque. Peut-être en partie parce que c'est à peu près le seul événement politique depuis quelque temps. Voyons la Galice d'abord. Les sondages prédisent une nouvelle majorité absolue au Parti Populaire, au PP de Mariano Rajoy, face à la gauche dispersée. Rajoy devrait en profiter pour répéter une nouvelle fois qu'il est légitime, que le Parti Socialiste, le PSOE, doit s'abstenir au Parlement espagnol pour laisser gouverner. Ce qui ne devrait pas beaucoup émouvoir les socialistes. Au Pays Basque, le grand favori, c'est le Parti Nationaliste Basque, le PNV, un parti de centre-droit hostile à l'indépendance. Le PNV ne devrait pas avoir la majorité absolue. Les socialistes donc aimeraient bien aider le PNV à gouverner au Pays Basque. Cela permet au niveau national d'être en bon terme avec les 5 députés de ce parti, même si cela ne suffit pas à faire une majorité. Et puis, la dernière chose, c'est qu'une fois ces scrutins passés, la guerre qui couve au Parti Socialiste risque d'éclater au grand jour. Il existe de très fortes tensions entre le secrétaire général du PSOE, Pedro Sánchez, et les dirigeants régionaux sur la stratégie à suivre, sur les alliances à nouer et même sur le leadership. Dès demain, la direction du parti va se réunir. On s'attend à ce que la hache de guerre soit déterrée.
Les précisions de Mathieu de Taillac. Les bureaux de vote ont également ouvert en République serbe de Bosnie pour un référendum, le premier depuis 1992, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en ex-Yougoslavie. La consultation porte sur le choix du 9 janvier comme jour de la fête nationale, initiative jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême de Sarajevo. La date coïncide avec une fête chrétienne orthodoxe et la justice estime que c'est discriminatoire à l'encontre des musulmans et des catholiques de l'entité fédérale. Les États-Unis, à l'origine des accords de paix de Dayton et l'Union européenne ont demandé à la République serbe d'annuler ce vote, tandis que Moscou soutient l'initiative. 12h40 sur France Culture, tout de suite la face cachée du globe avec vous Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Anne. De nouvelles mesures de rigueur seront débattues par le Parlement grec dans les tout prochains jours, parmi elles la réorganisation du marché de l'électricité et l'accélération des privatisations. Ces mesures ont été réclamées par les créanciers d'Athènes pour débloquer un nouveau prêt de 2,8 milliards d'euros. C'est le même rituel en Grèce depuis 2010. Les pays de l'OPEP vont-ils s'entendre sur un gel de la production de pétrole pour stabiliser les prix? À deux jours d'une réunion informelle prévue à Alger, un gros producteur, l'Arabie Saoudite, se dit prêt à faire un effort, mais les rivalités politiques dominent. Et donc, Riyad n'en fera rien si Téhéran ne gèle pas sa production. S'il prouve que j'ai parlé personnellement ou par téléphone à ceux qui sont responsables du coup d'État, j'en supporterai les conséquences. Cette déclaration a été faite par Fethullah Gülen, accusé par le président Erdogan d'être l'instigateur du putsch manqué du 15 juillet. Le prédicateur turc en exil vient de demander la création d'une commission d'enquête internationale. Cap sur le Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis en garde vendredi contre la multiplication des affrontements et la volonté d'expansion des groupes terroristes. Michel Galli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au Centre d'études sur les conflits à Paris. Vous êtes également auteur de « La guerre au Mali » publiée en juin 2013 aux éditions La Découverte. Des affrontements sont donc de nouveau signalés au nord entre des groupes pourtant signataires des accords de paix de juin 2015. Une importante cache d'armes a récemment été découverte à Kidal. Des attaques ont visé des militaires maliens au nord et même dans la région de Mopti au centre. Est-ce que cette situation délétère peut conduire à une résurgence des groupes djihadistes dans la région?
Alors, effectivement, c'est à peu près, quoi qu'en dise Ibrahim Boubacar Keïta, c'est à peu près comme les dernières années, un état ni guerre ni paix, avec effectivement des poussées de fièvre et puis des périodes plus calmes. Ces groupes, si vous voyez la base sociologique de ces conflits, ça fait des années, voire beaucoup plus, qui sont en fusion et en scission successive. Donc des groupes même autonomistes ou identitaires, comme les Peuls du Massina, du côté de Mopti, auquel vous avez fait allusion, ou bien encore les Touaregs, c'est au fond l'ordinaire de ces conflits.
Quelle influence ont encore des groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique actuellement dans cette région du Sahel?
L'État islamique, il est plus identifié à toute la zone du nord Nigeria, c'est-à-dire de Boko Haram. Par contre, ACMI, effectivement, ils sont toujours très influents et c'est vrai qu'il y a une concurrence entre, d'ailleurs mondiale, entre ces deux mouvements djihadistes combattants. Mais pour autant, les individus, notamment dans la zone du nord, que les Touaregs appellent la Zawad, peuvent facilement passer de l'un à l'autre, d'un mouvement indépendantiste Touareg à Ansardine, voire à ACMI.
Est-ce que les craintes du président Ibrahim Boubacar Keïta sont justifiées?
Je ne pense pas qu'il y ait de nouveau un retour à une période très aiguë, comme en janvier 2013, quand les forces djihadistes et autonomistes d'ailleurs sont descendues vers Bamako. Ça, c'est exclu. Maintenant, il y a de nouvelles zones, comme autour de Gao ou de Mopti, où des mouvements armés sont apparus. Et ça, c'est sans doute inquiétant à long terme.
Merci à vous, Michel Galli. Je rappelle que vous êtes politologue au Centre d'études sur les conflits à Paris. Le tombeur de la présidente Dilma Rousseff sera-t-il lui aussi rattrapé par la justice? Un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur des soupçons d'implication de l'actuel président Michel Temer dans le scandale Petrobras. C'est une correspondance d'Anne Vignia.
À l'origine de cette enquête, il y a des conversations enregistrées à leur insu entre les ténors du PMDB, le parti centriste, et rendues publiques en mai dernier. On y entend le président du PMDB, ministre de la planification du nouveau gouvernement de Michel Temer, dire qu'il faut absolument se débarrasser de la présidente Dilma Rousseff pour stopper cette enquête sur la corruption. Une enquête qui va faire saigner le PMDB, dit encore le ministre, qui doit démissionner en mai quand les conversations sont rendues publiques. Ces conversations font partie de la délation récompensée d'un cadre d'une filiale de Petrobras. Il a avoué à la justice avoir versé des pots de vin au PMDB pendant des années pour financer des campagnes électorales. Les donneurs d'ordre, selon Sergio Machado, étaient le président Michel Temer, l'ancien président Sarney, l'actuel président du Sénat ou encore le président du parti. Tous ont démenti leur implication et c'est désormais au procureur de la République de décider si l'enquête va ou non se poursuivre. Mais comme les faits sont antérieurs au mandat actuel de Michel Temer, ce dernier ne devrait pas être inquiété.
La guerre est terminée, dit à Mauricio Babilonia qu'il peut libérer les papillons jaunes. C'est avec cette référence à 100 ans de solitude du Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez que le négociateur des FARC a exprimé vendredi le soutien total de son groupe de guérilla à l'accord de paix avec le gouvernement colombien, accord qui sera signé officiellement demain. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Avant quelques mots de météo, un rappel des deux principaux titres de l'actualité. François Hollande a reconnu ce matin la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Nous avons également appris la mort du grand rabbin Joseph Sitruk. Nous reviendrons sur ces deux titres de l'actualité dans notre journal de 18h. Le temps de votre après-midi avec des pluies qui s'étirent des Pyrénées au Nord-Pas-de-Calais. Les températures, elles iront de 16 à Amiens, à 25 à Ajaccio. Il fera 20 à Nantes, 21 à Toulouse, 24 à Strasbourg et 25 à Ajaccio.